Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5. Nous allons lire la deuxième moitié de ce chapitre, à partir du verset 12. Romains, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Et voici donc la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous continuons donc notre étude de cette lettre, et surtout de ce chapitre 5. On a passé plusieurs semaines sur la première moitié de ce chapitre, les versets 1 à 11, où Paul nous a montré, nous a dévoilé les richesses de la grâce de Dieu, de l'Évangile, et il nous a amené à nous réjouir dans cet Évangile et dans le Dieu qui a révélé et qui a manifesté et qui a accompli le salut par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, dans la deuxième moitié de ce chapitre, Paul veut aller plus loin. Il veut que non seulement nous nous réjouissions dans l'Évangile et dans le Dieu de grâce qui a manifesté son amour et sa grâce en Jésus-Christ, mais il veut aussi pousser notre esprit à grandir, à chercher à comprendre et à voir la splendeur de l'Évangile. C'est un passage qui est un petit peu difficile et qui mérite donc tous nos efforts pour comprendre et pour voir ce que ce passage nous dit, parce que cela va nous donner une meilleure compréhension de l'histoire, et en faisant cela, cela va aussi nous donner un fondement pour des choses importantes pour la vie chrétienne. On va prendre le temps, comme le dit Pierre, de ceindre les reins de notre entendement pour suivre le raisonnement de l'apôtre Paul, pour comprendre et nous réjouir encore plus des richesses de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie, on peut rencontrer des situations qui nous font perdre les moyens. Par exemple, quand je forme un jeune conducteur de bus, il arrive que l'on rencontre une situation qui est inhabituelle et le jeune conducteur perd ses moyens. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et la réaction qu'il doit apprendre à avoir, c'est de revenir au principe de base, au principe élémentaire, et de repartir de là. C'est vrai pour d'autres, pour toutes les situations, tous les domaines de la vie, de revenir au principe de base quand on ne sait plus comment agir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Or, nous devons revenir au principe de base, au principe élémentaire de l'Évangile pour comprendre que l'Évangile est un message qui est glorieux, qui est cohérent, qui est merveilleux, qui tient ensemble depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, important de passer du temps sur ces choses qui sont fondamentales. Et c'est ce que Paul fait ici, dans cette deuxième partie du chapitre 5. Paul, nous l'avons déjà vu, a exposé l'universalité du péché, la situation terrible dans laquelle nous nous trouvons, hommes et femmes, par nature. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes sous sa colère, sous la condamnation de Dieu. Mais il a aussi parlé des richesses, des merveilles de l'Évangile, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Christ a fait par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, par son triomphe sur le péché, sur la mort, sur Satan, sur l'enfer. Et comment il a pourvu un salut qui répond parfaitement aux besoins des hommes. Et on a vu dans les versets 1 à 11 qui nous a amené à ce sommet pour que nous voyions ce paysage glorieux, ces richesses de l'Évangile. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de séparation et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cette grâce est tellement grande que nous nous glorifions même des afflictions. Mais pour ceux qui étaient privés de la gloire de Dieu, par nature, maintenant en Christ, nous nous glorifions en Dieu lui-même pour sa grâce qu'il nous a manifestée. Maintenant, dans les versets 12 à 21, Paul va poser différentes questions. Comment se fait-il que le péché se soit répandu de manière universelle? Comment se fait-il qu'il y a la grâce en Jésus-Christ qui est plus grande que tous nos péchés? Comment se fait-il que l'action d'un seul homme sur la croix peut apporter le salut à une multitude de personnes? Et ce sont ces questions qui font le lien entre ce que Paul a dit dans les chapitres précédents que nous avons vus et avec ce qu'il veut dire ici dans la deuxième partie du chapitre 5. Il commence avec cette expression « c'est pourquoi ». Il fait ce lien avec ce qu'il a déjà dit. Paul continue son raisonnement. Il veut encore que nous comprenions les fondements de l'Évangile, les richesses du dessein de Dieu dans l'histoire, afin que lorsque nous voyons Christ, on réalise qu'on était caché en Christ, dans tout ce qu'il a fait. Et c'est le langage qu'il utilise du chapitre 1, verset 5, jusqu'à la fin du chapitre 8. Il nous montre que tout ce que nous l'avons par ou en Jésus-Christ. Verset 11, c'est « par notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons obtenu la réconciliation ». Verset 21, c'est « par la justice que la grâce règne pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur ». Au chapitre 6, verset 23, il parle du don de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Au chapitre 7, verset 25, en réponse à la question « qui me délivrera de ce corps de mort ?», Paul dit « grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Au chapitre 8, verset 39, il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous appartient, qui nous a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul nous a montré les richesses de la grâce qui se trouvent en Jésus-Christ. Mais maintenant, il veut nous amener au principe de base, au principe élémentaire, au fondement. Comment Dieu traite-t-il les pécheurs? Comment Dieu pardonne-t-il des pécheurs? Et pour le faire, il nous donne ces versets, ce passage de Romains chapitre 5, les versets 12 à 21, pour solliciter notre réflexion. Et si nous suivons le raisonnement de l'apôtre Paul, nous allons apprécier d'une autre manière la splendeur, la merveille du salut qui est le nôtre en Jésus-Christ. Ce matin, on va se contenter d'un survol, d'un aperçu de tout ce passage pour voir où Paul veut nous amener. Et le survol est assez simple, il se divise en trois parties. Il y a les versets 12 à 14, 15 à 17 et ensuite 18 à 21. Et dans ces versets, Paul dit, il y a trois choses qui nous montrent ce que Paul fait. Tout d'abord, Paul nous présente deux hommes uniques, Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Paul va souligner le contraste entre les actions de ces deux hommes. Et ensuite, Paul va établir une comparaison entre les résultats des actions de ces deux hommes. Donc, trois choses. Paul nous présente deux hommes uniques. Et le premier est Adam. Il le nomme au verset 14. La mort a régné depuis Adam. Mais déjà au verset 12, c'est clair que Paul parle d'Adam. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Cette mort, il dit au verset 14, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam est le premier homme. C'est un personnage qui est réel, qui est historique. Qui est le deuxième homme? Dans les versets 12 à 14, Paul ne le nomme pas, mais il le décrit à la fin du verset 14 en disant « Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir ». Et Paul ne va pas nous laisser deviner, puisque plus loin, verset 15, il parle d'un seul homme, Jésus-Christ. Et ensuite, les mêmes choses au verset 17 et 21. Et Paul a donc ces deux hommes en tête. Adam, le premier homme de l'histoire, et le Seigneur Jésus-Christ, venu pour être le sauveur des pécheurs. Et si Paul passe du temps à nous parler d'Adam, il le fait pour que nous comprenions encore mieux le Seigneur Jésus-Christ, Adam étant la figure de celui qui devait venir, de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment chez un bijoutier, mais si vous demandez à un bijoutier de vous présenter un diamant ou une pierre précieuse, il va d'abord sortir un tissu noir, et ensuite il va poser cette pierre, cette bague, ce collier, qu'importe, sur ce tissu noir, pour faire ressortir l'éclat de la pierre précieuse qui va contraster avec le tissu noir. Et c'est exactement ce que Paul fait ici. Il nous présente les deux hommes pour que l'on voit le contraste entre les deux. Il veut que l'on voit briller la splendeur, la grandeur de la grâce de Jésus-Christ. Et on voit briller cette grâce de tout son éclat quand on voit ce que Jésus a accompli sur le fond noir de l'œuvre d'Adam. Mais la chose la plus importante à saisir ici, c'est que bien que Paul parle d'Adam et du Seigneur Jésus comme des personnages historiques, il veut aussi attirer notre attention sur le fait que ce sont des représentants. C'est pour ça qu'Adam est la figure de Christ. Parce que les deux sont des représentants. En d'autres mots, pour bien comprendre, la clé pour comprendre ce que Adam a fait et ce que Christ a fait, comment leurs actes ont un rapport avec nous, la clé pour bien comprendre que ces deux hommes, c'est de voir que ces deux hommes ne sont pas seulement des personnages historiques, mais que les deux sont des représentants. Cela veut dire que tout ce que chaque représentant fait est attribué à ceux qu'il représente. Dans un autre passage, en 1 Corinthiens chapitre 15, Paul parle du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam est bien sûr ce premier homme qui a été créé, que l'on voit dans Genèse 1 à 4, le dernier Adam est le Seigneur Jésus-Christ. Mais au verset 47, 1 Corinthiens 15, 47, il est décrit de manière assez intéressante. Il dit Adam comme le premier homme et le Seigneur Jésus-Christ comme le second homme. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Paul décrit le Seigneur Jésus comme étant le second homme ? Il sait très bien qu'entre Adam et le Seigneur Jésus-Christ, il y a une foule d'hommes. Mais il l'appelle le second homme parce que Adam était le premier homme représentant. Il était la tête de l'humanité, de la famille humaine. Il n'y a pas eu d'autre représentant jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand Adam a péché, il n'a pas seulement péché à titre personnel. Il a péché au nom de tous ceux qu'il représentait, de toute l'humanité. Quand le Seigneur Jésus-Christ a obéi, quand il est mort sur la croix, il a obéi et il est mort non seulement à titre personnel, en fait, il n'avait même pas besoin de venir dans ce monde, il n'avait pas besoin de mourir pour lui, mais il est venu dans le monde comme le second homme représentant, le dernier Adam. Il a obéi et il est mort au nom de tous ceux que le Père lui a donnés. Il est notre représentant devant Dieu. Cette façon de penser n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, on a des représentants qu'on a élus, des personnes qui prennent des décisions pour nous, qui votent une loi quand elles le font, même si on n'est pas d'accord, mais elles le font quand même au nom du peuple, au nom de ceux qui ont voté pour elles. Dans l'Ancien Testament, on a des représentants, on pense en particulier au souverain sacrificateur, qui portait sur ses habits le nom des 12 tribus d'Israël. Ce qu'il faisait, il ne le faisait pas seulement pour lui, mais il le faisait aussi pour tous ceux qu'il représentait, tous ceux qui lui appartenaient. On peut penser à David, par exemple, un jeune David, quand il terrasse Goliath. Goliath à terre, c'est la victoire pour tout Israël. La petite chose que David a faite avec sa fronde et ses pierres, c'est la victoire du peuple sur les Philistins. Et c'est l'image que Paul nous dépeint ici. Paul, nous l'avons vu, a décrit notre condition naturelle, que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Il veut que nous revenions au principe de base pour comprendre que derrière tout le péché que nous voyons, il y a l'échec du premier homme. Il y a l'échec d'Adam, notre représentant, la tête de l'humanité. Et en contraste avec cette sombre réalité, il veut que nous voyons aussi briller le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre glorieuse. Il est venu dans le monde pour être notre représentant. Tout ce qu'il a fait par sa vie, par sa mort, est attribué à ceux qui croient en lui. Si nous sommes à Christ, nous avons été crucifiés avec lui et nous sommes vivants avec lui. Paul nous présente deux hommes uniques. Mais ce premier point est difficilement séparable du deuxième, donc on va passer au deuxième point. Paul souligne le contraste entre les actions de ces deux hommes. Au verset 12, il parle du péché d'un homme et la mort qui est venue à cause du péché. Au verset 16, il parle d'un seul qui a péché. Question. Qui était le premier pécheur? Qui a pris le fruit défendu? Qui a désobéi à Dieu en premier? On va dire, c'est Ève qui a pris le fruit défendu. Et ce fait historique est un indice pour comprendre ce que Paul dit ici. Paul ne dit pas, ben oui, c'est Ève qui nous a mis dans cette situation fâcheuse. Non, parce que Paul sait que Dieu ne traitait pas avec nous individuellement, mais avec Adam, le représentant, la tête de la famille humaine. Petite précision quand même, c'est que le premier pécheur, c'est quand même Adam. Il a abandonné ses responsabilités à Ève. Sa responsabilité était de dire, non, on n'écoute pas le serpent, on écoute le Créateur. Ça ne change rien dans l'argumentation. Paul comprend que Dieu a fait d'Adam le représentant de toute l'humanité, la tête de la famille humaine. Et c'est dans le péché d'Adam que nous sommes tous tombés. Paul décrit ce péché d'Adam de plusieurs manières. Verset 14, il parle d'une transgression, c'est-à-dire ce n'est pas respecter un commandement. Verset 15, 16, 17, 18, il parle d'une offense, c'est-à-dire c'est une insulte, c'est attaquer l'honneur de Dieu. Verset 19, il parle d'un acte de désobéissance. Et la conséquence de ce péché, c'est la mort qui est entrée dans le monde, puis le jugement et la condamnation. Il y a eu un tsunami de péché et de condamnation. Parce que lorsque Adam a péché, il n'a pas agi seul ou comme un individu isolé. Il a agi comme le représentant de toute l'humanité. La preuve de cela, dit Paul, se trouve dans le fait que, avant même que la loi ne soit donnée, et la loi est donnée pour définir le péché, avant même que la loi ne soit donnée, des hommes et des femmes sont morts. Pourquoi ? Pourquoi sont-ils morts ? Ils sont morts parce qu'ils étaient impliqués dans le péché d'Adam. Adam a amené toute la race humaine sous la condamnation de Dieu par sa désobéissance et par son péché. Mais heureusement, la Bible ne s'arrête pas là. Ce premier Adam était une figure de celui qui devait venir. Et si tout ce que Adam a fait a été attribué à l'humanité, tout ce qu'a fait le dernier Adam est attribué à ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est venu pour défaire tout ce que Adam avait fait. Et il est venu faire ce que Adam n'a pas fait. Mais en plus, il s'est offert en sacrifice pour subir le jugement et la condamnation en tant que substitut, en tant que notre victime expiatoire et victime propitiatoire à notre place. Et là, on commence à voir la merveilleuse image que Paul nous donne du Seigneur Jésus-Christ. Paul, c'est comme si Paul nous disait, vous voyez le désastre de l'action d'Adam, la tragédie qu'il a amenée dans ce monde, le péché, la mort, la condamnation, le jugement, la séparation d'avec Dieu. Et voyez le second Adam. Voyez le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam. Quand le Seigneur Jésus-Christ a accompli son œuvre, il n'y a plus besoin d'un autre représentant. Il n'y a plus besoin d'un autre Adam. Jésus est entré dans le monde comme le second homme pour avoir le succès là où Adam a échoué, pour vaincre là où Adam a succombé. Durant toute sa vie, le Seigneur Jésus-Christ a obéi à son Père en tant que second homme, en tant que dernier Adam. Il a toujours fait ce qui est plu à son Père, contrairement à Adam. Et après une vie d'obéissance à son Père céleste, comme notre substitut, comme notre représentant, il s'est offert en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité, il est entré dans la gloire, il est le premier-né d'entre les morts, il commence cette nouvelle humanité avec lui. Une humanité qui est réconciliée avec Dieu. Est-ce que l'on voit sur quelle échelle Dieu est à l'œuvre? En contraste avec la noirceur de l'œuvre d'Adam et tout ce qu'il a amené dans ce monde, et on le voit, il suffit de lire les journaux, il suffit de voir les informations à la télé, tout ce que l'on voit dans ce monde, en contraste à cela, est-ce que l'on voit la gloire de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, la splendeur, la perfection de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que Paul compare? Il compare une seule offense du premier homme, Adam, qui nous a amenés à la ruine, avec la vie d'obéissance et le sacrifice à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est peut-être la réalité la plus disproportionnée dans toute l'histoire. Le péché d'Adam. La désobéissance d'Adam nous a amenés à la ruine. Et c'est la vie d'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ et sa mort agonisante sur la croix pour nos péchés qui sont nécessaires pour notre réconciliation avec Dieu. Cela nous amène au troisième point. On a vu les deux hommes uniques. On a vu le contraste entre leurs actions, la désobéissance de l'un et une vie d'obéissance de l'autre. Et Paul, troisièmement, établit une comparaison entre les résultats des actions de ces deux hommes. Lisons à partir du verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la vie, par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez ce que Paul est en train de dire ? Il dit, je viens de comparer ces deux hommes. Je vous ai montré qu'ils étaient tous les deux des représentants. J'ai souligné le contraste entre leurs actions, l'obéissance de l'un, la désobéissance de l'autre. Mais il rajoute, il n'y a pas de mesure entre les deux. Il n'y a pas de mesure entre ce que Adam a fait et ce que Jésus-Christ a accompli. Ce n'est pas un match nul. Ce n'est pas une égalité comme un match de foot, comme le match entre l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde il y a quelques jours. Non. Ce que Christ a fait dépasse de loin ce que Adam a fait par son péché et sa désobéissance. Christ nous a déversé sa grâce. Comme on l'a dit au début, la raison pour laquelle Paul veut que nous réfléchissions, que nous creusions au sujet de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour voir les proportions de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. De voir que ce que nous avons en Christ est bien plus que ce que nous avons perdu en Adam. Nous avons beaucoup plus en Christ. Et Paul fait cela pour une raison très simple. Il veut que nous réalisions que notre plus grand privilège dans ce monde, c'est d'être trouvé en Christ et non plus en Adam. Le plus grand besoin d'une personne dans ce monde, c'est de sortir de la famille d'Adam, dans laquelle nous sommes tous par nature, et d'entrer dans la famille de Jésus-Christ. Parce que dans la famille d'Adam, il n'y a que le péché, la condamnation, la mort. Mais dans la famille de Jésus-Christ, il y a la justice, la justification, la vie éternelle. Et la chose la plus remarquable, dit Paul au verset 15, c'est que tout cela est un don gratuit. Un don gratuit, auquel nous n'apportons aucune contribution. On ne peut pas apporter nos bonnes œuvres, on ne peut pas apporter notre sanctification, on ne peut pas apporter notre service chrétien, il n'y a aucune contribution de notre part. C'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et cela a deux résultats. La première, c'est que cela humilie l'orgueil, même l'orgueil chrétien. Qu'importe le degré de sainteté de notre vie, on n'apporte aucune contribution pour notre justification devant Dieu. Mais cela s'adresse aussi à ceux qui sont brisés, ceux qui ont tout essayé, ceux qui ont cherché à s'améliorer par leurs efforts, qui ont essayé de garder la loi, mais qui réalisent qu'ils ne le peuvent pas. Abandonnez vos œuvres, parce que tout cela, ce salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Il nous donne tout gratuitement, parce que cela découle de sa grâce, et cela ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La question pour nous ce matin est la suivante. Est-ce que nous sommes en Christ? Est-ce que nous sommes en Christ ou est-ce que nous sommes encore en Adam? Il y a un don gratuit en Jésus-Christ, un don de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Saisissons ce don. Revenons au principe de base de l'Évangile pour nous réjouir toujours plus de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et voyons combien l'œuvre et la personne de Jésus-Christ brillent, éclatent à la lumière ou sur le fond noir de l'œuvre d'Adam. L'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ dépasse de loin ce que Adam a fait. Le Seigneur Jésus-Christ est bien plus, nous avons en Christ bien plus que ce que nous avons perdu en Adam. Voilà un survol de ce passage et Dieu voulant, nous allons y revenir dans les semaines, peut-être après les vacances d'été. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.